Chers amis auditeurs de Radio Maria France, c'est l'actualité du pape François. Dans cette actualité, nous allons revenir sur les paroles du Saint-Père lors de l'Angélus. C'était donc dimanche dernier. Également un petit dossier spécial sur les chrétiens d'Irak. Qui sont-ils dans la ligne de ce voyage du Saint-Père dans quelques jours? Une vidéo du Saint-Père sur le sacrement de confession. Et bien sûr, l'audience générale du mercredi, la poursuite des catéchèses sur la prière. Et nous terminerons cette actualité avec un entretien, il s'agit de Adèle Bacavan, de l'IFRI, Institut français des relations internationales, qui revient justement sur le voyage du Saint-Père en Irak et surtout sur l'état de l'Irak aujourd'hui. L'Irak toujours en quête de stabilité politique et sécuritaire. Cet entretien qui terminera cette actualité. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette actualité du pape François et on commence donc, comme dans les annonces, par l'Angélus. Soyons des lampes de l'Évangile qui partagent la lumière du Christ. C'était avant la prière de l'Angélus de ce deuxième dimanche de carême, le pape François qui a proposé un commentaire du mystère de la transfiguration qui était au cœur de l'Évangile du jour. Alors cet épisode de la vie de Jésus nous rappelle que la victoire de la résurrection succédera aux épreuves de la vie. Il s'agit aussi d'une invitation à porter au monde la lumière de l'Évangile. Alors avant la souffrance du mont du Calvaire, c'est la lumière émanant du Christ que les fidèles sont appelés à contempler avec les disciples sur le mont Tabor. La transfiguration du Seigneur anticipe son image de ressuscité, a expliqué le pape François. Jésus offre à Pierre, Jacques et Jean la lumière pour passer à travers les ténèbres. La joyeuse annonce de Pâques transparaît déjà. La mort ne sera pas la fin de tout, car elle s'ouvrira à la gloire de la résurrection. Alors comme l'a souligné le Saint-Père, cet avant-goût de lumière au cœur du carême est une invitation à nous rappeler, surtout lorsque nous traversons une épreuve difficile, que le Seigneur est ressuscité et ne permet pas aux ténèbres d'avoir le dernier mot. Alors face au mystère de la mort, de la maladie, de la douleur innocente, devant le scandale de la croix et les exigences de l'Évangile, invitant au don de sa propre vie, nous nous effrayons souvent et nous trébuchons, comme les disciples aux côtés de Jésus. Nous avons donc besoin d'un autre regard, d'une lumière qui éclaire en profondeur le mystère de la vie et nous aide à dépasser nos schémas et les critères de ce monde, a indiqué le pape François. Il s'agit alors de gravir la montagne, afin de contempler la beauté du ressuscité, qui allume des lueurs de lumière dans chaque fragment de notre vie, et nous aide à interpréter l'histoire sur la base de sa victoire pascale. Le souverain pontife a toutefois appelé au réalisme. Prendre de la hauteur ne doit pas devenir une paresse spirituelle. Nous ne pouvons pas rester sur la montagne et profiter seuls de la béatitude de cette rencontre, a-t-il averti. Il faut revenir dans la vallée, parmi nos frères et sœurs et dans notre vie quotidienne. Oui, nous devons nous méfier de la paresse spirituelle. Nous sommes bien avec nos prières et nos liturgies et cela nous suffit, a dit le pape François. Et je le cite, « Prier, ce n'est jamais échapper au labeur de la vie. La lumière de la foi n'est pas pour une belle émotion spirituelle. Non, cela n'est pas le message de Jésus. Cette lumière reçue dans la rencontre avec le Seigneur doit être partagée. Allumer de petites lumières dans le cœur des gens, être de petites lampes de l'Évangile qui apportent un peu d'amour et d'espoir, telle est la mission du chrétien, a conclu le Saint-Père. Les crises de la foi ne sont pas des fautes contre la foi. Elles révèlent le besoin d'entrer toujours plus dans la profondeur du mystère de Dieu. Voilà ce qu'a affirmé le pape François dans un entretien avec le père Marco Pozza, dont le quotidien Il Corriere della Sera a publié des extraits. Alors le pape y est en conversation avec l'aumônier de la prison de Padoue pour 7 épisodes télévisés qui seront diffusés sur la chaîne Nové, Discovery Italia, et pour un ouvrage intitulé « Des vices et des vertus », qui sortira le 2 mars prochain. Alors le thème s'inspire de la fresque de Giotto, dans la chapelle des Scroveni à Padoue, représentant les vices et les vertus. Justice, injustice, force, inconstance, tempérance, colère, prudence, sottise, foi, infidélité, espérance, désespoir, charité, envie. Il y a de nombreuses personnes vertueuses. Il y a des personnes vicieuses. Mais la majorité sont un mélange de vertus et de vices, a souligné le pape François. Certains sont bons dans une vertu, mais ont quelques faiblesses. Parce que nous sommes tous vulnérables. Et nous devons prendre au sérieux cette vulnérabilité existentielle. Il est important de le savoir comme guide de notre chemin, de notre vie. Alors dans cet entretien, le pape a notamment parlé de la colère, une tempête dont le but est de détruire. Alors il a donné le Saint-Père l'exemple du harcèlement scolaire. Les petits aussi ont la capacité de détruire l'autre. Le harcèlement naît lorsque, au lieu de chercher son identité, on diminue et on attaque l'identité de l'autre. L'unique façon de guérir du harcèlement est de partager, de vivre ensemble, de dialoguer, d'écouter l'autre, de prendre du temps, car c'est le temps qui fait la relation. Chacun de nous a quelque chose de bon à donner à l'autre, chacun de nous a besoin de recevoir de l'autre quelque chose de bon. Alors, la colère de Dieu, en revanche, a pour but d'apporter la justice, de nettoyer. Le déluge est une figure de la colère de Dieu qui, selon la Bible, a vu trop de mauvaises choses et décide de supprimer l'humanité. Dieu a déchaîné sa colère, mais il a vu un juste, l'a pris et l'a sauvé. L'histoire de Noé montre que la colère de Dieu est aussi salvatrice. Le pape François, dans cet entretien, s'est arrêté également sur la prudence. La prudence qui n'est pas la vertu de celui qui ne se salit jamais, qui se lave avec du désinfectant. Mais c'est la vertu du gouvernement. Celui qui gouverne sans prudence gouverne mal et fait de mauvaises choses. Il prend de mauvaises décisions qui détruisent le peuple, toujours, a ajouté le Saint-Père. Alors pour le pape, la prudence va de pair avec la sympathie, avec l'empathie pour les situations, les personnes, le monde, les problèmes. Et la prudence n'est pas toujours l'équilibre. Parfois, la prudence doit être déséquilibrée pour prendre des décisions qui produisent un changement. Alors au fil de cet entretien, le Saint-Père a également médité sur le doute. Le diable te met en doute, puis la vie, puis les tragédies. Pourquoi Dieu permet-il cela? Le problème, c'est de ne pas avoir de patience. Dans le jardin des Oliviers, Jésus homme était-il content? Penser être abandonné par Dieu est une expérience de foi qu'ont ressenti tant de saints et de personnes d'aujourd'hui. Mais ils ne perdent pas la foi. Ils protègent ce don. En ce moment, je ne sens rien, mais je protège le don de la foi. Et le Saint-Père d'estimer, au chrétien qui n'est jamais passé à travers ses états d'âme, il manque quelque chose. Une foi sans ses épreuves, je doute que ce soit une vraie foi. A conclu le Saint-Père. Thank you. qui sont les chrétiens d'Irak? Voilà un petit dossier qui a été fait par Radio Vatican. Alors, ces chrétiens d'Irak qui représentent, il faut le savoir, moins de 2% de la population, soit environ 400 000 personnes. Ils sont bien sûr donc minoritaires dans un pays où prédomine la religion musulmane. Les chrétiens d'Irak forment une communauté composite, aux racines anciennes, qui remonte à l'apôtre Thomas. Alors, Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Oui, le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres témoigne de l'évangélisation de la Mésopotamie, territoire de l'Irak actuel, dès les temps apostoliques. Alors les chrétiens irakiens sont donc les héritiers d'une implantation religieuse très ancienne, bien antérieure à la naissance de l'islam au 7e siècle. L'église chaldéenne a été fondée à Babylone par saint Thomas, en route vers l'Inde, et par ses disciples, parmi lesquels Adai et Marie. Ils évangélisèrent des païens et des juifs exilés. Vers l'an 70 après Jésus-Christ, une église est déjà construite à Séleucie. Vers 90, l'église est établie à Arbel et à Diaben, au nord de l'actuel Irak. Alors les communautés grandissent et au début du IVe siècle se concrétise l'unification hiérarchique, alors même que les persécutions persanes se déchaînent. En 345, le patriarche envoie une grande mission au Malabar, en Inde, une région déjà évangélisée par saint Thomas. À partir de 646, commence une véritable épopée missionnaire vers la Chine, puis la Mongolie. L'Église d'Orient parvient jusqu'en Mandchourie, à Sumatra et aux frontières du Japon à l'est, jusqu'à Chypre à l'ouest et jusqu'au Yémen au sud. Au XIIe et XIIIe siècle, l'Église d'Orient compte plus de 200 diocèses et représente la moitié de la chrétienté en nombre de fidèles et en superficie. Alors, mais des schismes aussi, on le sait, ont jalonné l'histoire du christianisme en Irak dès que le christianisme est devenu religion d'État, statut qui a été acquis en Orient dès 380 avec l'arrivée au pouvoir de l'empereur nicéen Théodose. Alors après les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, 431 et 451, des écoles théologiques développant des christologies divergentes ont donné naissance à différentes familles. Ultérieurement d'ailleurs, les ingérences occidentales ont encore accentué ces divisions. Après la séparation du concile d'Éphèse, l'Église d'Orient rentre dans le giron de l'Église catholique en 1553. Alors à l'époque de la conquête arabe, au 7e siècle, les chrétiens constituaient la quasi-totalité de la population du Proche-Orient. Les échanges culturels entre chrétiens et musulmans connurent un âge d'or du 9e au 13e siècle, tant en Égypte qu'en Syrie ou en Mésopotamie. Alors c'est surtout à partir du XIVe siècle que le nombre des chrétiens a commencé à décroître très significativement au Moyen-Orient. Une certaine coercition musulmane a eu sa part dans le phénomène, mais pas seulement. La décroissance n'a pas été constante. Sous l'Empire ottoman, du XVIe au début du XXe siècle, les communautés chrétiennes du Levant ont même connu un regain démographique. Au début du XXe siècle, il faut le savoir, la communauté chrétienne représentait 30% de la population, mais par la suite, ils ont été nombreux à quitter le pays à cause des persécutions et des guerres. La religion prédominante est aujourd'hui l'islam, avec 62% de chiites, 37% de sunnites, d'après les chiffres de l'œuvre d'Orient. Les chrétiens représentent donc moins de 2% de la population. Il y a également des minorités yézidis et sabéennes, mandéennes, qui sont présentes dans le pays. Alors selon Gérard François Dumont, qui est professeur à l'université de Paris-Sorbonne, on distingue 12 courants au sein du christianisme irakien. L'église chaldéenne, catholique de rite oriental, l'église assyrienne d'Orient, l'église syriaque catholique unie à Rome, l'église syriaque orthodoxe dite jacobite, l'église arménienne orthodoxe, l'église arménienne catholique, l'église catholique de rite latin, des églises protestantes, l'église grecque orthodoxe, l'Église grecque catholique, les Coptes et même des Anglicans. On l'a dit, au début du 8e siècle, les Arabes déferlent sur la Mésopotamie et la Syrie. L'Église syriaque est persécutée par les Byzantins au 9e siècle, puis par les Arabes au 10e siècle, par les Mongols au 13e siècle et par Tamerlan au 15e siècle. Alors, fidèles à leur histoire et à leur tradition, les Syriaques n'envisagent d'abord pas de rejoindre une Église catholique unique, donc celle formée par les Chaldéens. Mais en 1557, le patriarche Ignace Németala se rapproche de Rome. Avec Ignace André Adjikan, élu patriarche en 1662, l'Église prend le nom d'Église syriaque catholique. L'opposition à l'union persiste toutefois jusqu'en 1783, année du rattachement à Rome. Alors cette Église, dont le patriarche réside au Liban, est appelée indifféremment syriaque ou syrienne. Elle regroupe environ 175 000 fidèles et rassemble environ 9% des chrétiens d'Irak. Depuis le 22 janvier 2009, le patriarcat établi au Liban est gouverné par Ignace Youssef III Younan. En 1783, une partie des fidèles refuse l'union à Rome, apparaît alors l'église syriaque jacobite qui a son siège à Damas. Elle compte 750 000 fidèles et 10% des chrétiens d'Irak en font partie. En 491, c'est au tour des Arméniens de s'opposer aux conclusions du concile de Chalcédoine. Ils forment alors une église chrétienne séparée, appelée également arménienne orthodoxe ou apostolique. En raison des vicissitudes de l'histoire et notamment du génocide arménien de 1915, l'exode de population explique la présence en Irak de deux petites communautés arméniennes, distinguant les orthodoxes et ceux qui sont en communion avec Rome au sein de l'église arménienne catholique. Au total, ce sont 20 000 fidèles vivant en Irak. Et enfin, la chrétienté d'Irak a été également influencée par la colonisation britannique. Cette dernière a laissé en héritage l'existence d'une petite communauté anglicane comptant environ 200 personnes et qui vient donc ajouter à la diversité chrétienne irakienne qui est grande, on vient de le voir. La vidéo du pape François de ce mois de mars fait ressortir la joie que donne le sacrement de la réconciliation et nous rappelle qu'il s'agit d'une rencontre d'amour et de miséricorde entre Dieu et nous. Oui, cette vidéo du pape du mois de mars communique donc l'intention de prière que le pape François confie à toute l'Église catholique à travers le réseau mondial de prière du pape. Il s'agit d'un message plein d'espérance qui invite à redécouvrir la force de renouvellement personnel qu'apporte le sacrement de la réconciliation dans nos vies. Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l'infinie miséricorde de Dieu, demande François. La vidéo de ce mois s'ouvre sur sa propre pratique de la confession, pour me guérir l'âme. Nous sommes présents avant nos fautes dans le cœur de Dieu, a dit le Saint-Père dans cette vidéo, en insistant une fois encore sur la force de l'amour de Dieu, sur notre être et sur notre agir. Recevoir ce sacrement, ce n'est pas se tenir devant un juge, mais c'est venir à une rencontre d'amour avec le Père qui nous reçoit et nous pardonne toujours. Au cœur de la confession, il y a non pas les péchés que nous disons, mais l'amour divin que nous recevons et dont nous avons toujours besoin, a ajouté le pape François. Cet amour passe avant tout, avant les erreurs, les règles, les jugements et les chutes. Alors le père Frédéric Formos, directeur international du réseau mondial de prière du pape, a rappelé la dernière phrase de l'intention de François. Prions pour que Dieu donne à son Église des prêtres miséricordieux et non bourreaux. Et il ajoutait, ce n'est pas la première fois que le pape demande cette grâce. En bon berger, il connaît la souffrance de son peuple, ses péchés, son besoin de ministre de la miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. Alors dans sa lettre apostolique Misericordia et Misera, publiée en conclusion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, le pape François avait invité les prêtres à être comme Jésus, plein de compassion et passion. C'est un chemin de conversion pour qu'ils soient témoins de la tendresse paternelle, clairvoyants dans le discernement et généreux en donnant le pardon de Dieu. Le pape demande que notre cœur soit proche du cœur de Jésus, et cela est une grâce. Et nous en venons maintenant à l'audience générale. La prière est une porte d'entrée à la Sainte Trinité. Alors poursuivant son cycle de catéchèse sur la prière, le pape François a médité sur la vocation de celle-ci et sur l'amour de Dieu pour l'homme qui en découle, lors donc de cette audience générale du mercredi 3 mars, depuis la bibliothèque du Palais apostolique. Dans notre chemin de catéchèse sur la prière nous ouvre à la Trinité, à la mère immense de Dieu amour, a d'abord commencé le Saint-Père. Relevant comment, autrefois, nous ne savions vraiment pas comment on pouvait prier, à savoir quels mots, quels sentiments et quel langage étaient appropriés pour Dieu. Or, toutes les prières ne sont pas égales, et toutes ne sont pas appropriées, a observé le successeur de Pierre. La Bible elle-même atteste du mauvais résultat de nombreuses prières qui sont repoussées. En effet, parfois, peut-être que Dieu n'est pas content de nos prières, et que nous ne nous en apercevons même pas, soutient le pape, précisant, je le cite, « Dieu regarde les mains de celui qui prie. Pour les rendre pures, il ne faut pas les laver, mais il faut plutôt s'abstenir de mauvaises actions. » Le pape François a alors cité l'exemple d'une prière particulièrement émouvante, celle qui a fleuri sur les lèvres de ce centurion romain qui supplia à Jésus un jour de guérir son serviteur malade. Il se sentait complètement inadapté. Il n'était pas juif. C'était un officier de l'armée d'occupation qui était haï. Mais la préoccupation pour son serviteur lui fait oser, a remarqué le pape François, le citant, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Cette phrase, répétée dans chaque liturgie eucharistique, montre que dialoguer avec Dieu est une grâce, estime le souverain pontife. Je le cite, « Nous n'en sommes pas dignes, nous n'avons aucun droit à avancer, nous boitons avec chaque parole et chaque pensée, mais Jésus est une porte qui s'ouvre. » Pourquoi l'homme devrait-il être aimé de Dieu ? S'est interrogé ensuite l'évêque de Rome. Il n'y a pas de raison évidente, il n'y a pas de proportion. Cela est vrai au point que dans une bonne partie des mythologies, le cas d'un Dieu qui se soucie des événements humains n'est pas prévu, rappelle le Saint-Père. Ceux-ci sont même pénibles et ennuyeux, tout à fait négligeables, Dieu ne peut penser qu'à lui-même. Dans ces cas antiques, cités par le Saint-Père, ce sont plutôt les êtres humains qui cherchent à adoucir la divinité et à apparaître agréables à ses yeux. D'où le devoir de religion, avec son cortège de sacrifices et de dévotions à offrir sans cesse pour gagner les faveurs d'un Dieu muet et indifférent. De ce fait, nous n'aurions jamais eu le courage de croire à un Dieu qui aime l'homme si nous n'avions pas connu Jésus, a affirmé le pape François. Nous n'aurions pas pu concevoir des récits de ce genre, pas même les comprendre, si nous n'avions pas rencontré Jésus. Quel Dieu est disposé à mourir pour les hommes ? Quel Dieu aime toujours et patiemment, sans avoir la prétention d'être aimé en retour? Quel Dieu accepte le terrible manque de reconnaissance d'un fils qui lui demande son héritage en avance et s'en va de la maison en gaspillant tout? En effet, nous imaginons avec difficulté et de très loin l'amour dont la très sainte Trinité est riche. Et quelle immensité de bienveillance réciproque existe entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, constate le souverain pontife, prenant l'exemple des icônes orientales qui laissent entrevoir quelque chose de ce mystère, origine et joie de tout l'univers. Il nous était surtout impossible de croire que cet amour divin se serait dilaté en abordant sur notre rivage humain, Nous sommes le terme d'un amour qui n'a pas d'égal sur la terre, ajoutait le Saint-Père, concluant sur la portée infinie de cet amour. Nous ne pouvions vraiment pas espérer de plus haute vocation. L'humanité de Jésus a rendu la vie de la Trinité elle-même disponible pour nous. Voilà pour cette belle catéchèse sur la prière, la Sainte Trinité. Dans cette audience et en conclusion également, le pape est revenu sur son prochain voyage en Irak. Il a demandé aux fidèles de prier pour son voyage à l'issue de cette audience du 3 mars. Le Saint-Père qui a rappelé l'importance du voyage apostolique, qu'il entamera donc ce vendredi 5 mars, souhaitant que cette visite porte les fruits espérés. Le Saint-Père qui a donc rappelé, à quelques jours de son départ pour Bagdad, rappelé l'importance de ce voyage apostolique pour le peuple irakien et souhaité être accompagné par la prière de chacun pour que cette visite soit une réussite. Vendredi, si Dieu le veut, je partirai en pèlerinage de 3 jours en Irak, a confié le Saint-Père à l'issue de l'audience générale. Depuis un certain temps, je voulais rencontrer ce peuple qui a tant souffert, rencontrer cette église martyre sur la terre d'Abraham. Avec les autres chefs religieux, nous ferons également un pas de plus vers la fraternité entre les croyants. Je vous demande d'accompagner de vos prières ce voyage apostolique, afin qu'il se déroule de la meilleure façon possible et porte les fruits espérés. Le peuple irakien nous attend, a ajouté le Saint-Père. Il attendait Saint Jean-Paul II, à qui l'on a interdit de partir. Nous ne pouvons pas décevoir un peuple pour la deuxième fois. Prions pour que ce voyage se déroule dans de bonnes conditions. Et à l'issue toujours de cette audience générale, le souverain pontife a souhaité attirer aussi l'attention de la communauté internationale sur la situation politique critique en Birmanie. Le pape a exhorté à la prévalence du dialogue sur la répression. Oui, de tristes nouvelles qui continuent d'arriver de la Birmanie avec des affrontements sanglants et des pertes de vie humaine. Je voudrais attirer l'attention des autorités concernées sur le fait que le dialogue doit prévaloir sur la répression et l'harmonie sur la discorde, a d'emblée affirmé le pape François, appelant par ailleurs la communauté internationale à veiller à ce que les aspirations des Birmans ne soient pas étouffées par la violence. Je cite encore le Saint-Père que les jeunes de cette terre bien-aimée aient l'espérance d'un avenir où la haine et l'injustice feront place à la rencontre et à la réconciliation. Enfin, le pape François a répété ce qu'il avait exprimé il y a un mois, je le cite, que le chemin vers la démocratie pris ces dernières années par la Birmanie puisse être repris par le geste concret de la libération des différents dirigeants politiques emprisonnés. Et le 1er février dernier, l'armée birmane avait procédé donc à un coup d'État, renversant la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, qui se trouve arrêtée et emprisonnée avec le président de la République et d'autres responsables de la Ligue nationale pour la démocratie au pouvoir depuis 2015. Alors l'armée proclame l'état d'urgence pour un an, alléguant de fraude aux législatives de novembre, massivement remportée par la LND, Ligue nationale pour la démocratie, et des manifestations sévèrement réprimées se succèdent depuis à Rangoon, la capitale, et d'autres villes du pays. Comme annoncé, nous allons finir sur un entretien réalisé par Delphine Allaire de Vatican News, entretien avec Adèle Bacavant, qui est chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Le thème, l'Irak, toujours en quête de stabilité politique et sécuritaire. On écoute tout de suite cet entretien.
Vous avez l'offensive militaire turque dans le nord, le déploiement des milices dans le sud et dans le centre. Vous avez le retour en force de l'organisation d'État islamique. La conflictualité entre Erbil et Bagdad qui arrive à un niveau dangereux. Des roquettes qui pleuvent sur les bases américaines et les ambassades un peu partout dans la zone verte. Vous avez un gouvernement désarmé face à toutes ces crises économiques, politiques, sécuritaires. Et vous avez aussi les élections prévues pour le mois d'octobre. Le grand Ayatollah irakien, Ayatollah Sistani, la Marjaïa du Najaf, chaque vendredi, d'une manière systématique, alerte le peuple irakien à ne pas glisser vers la guerre civile. Pourquoi ? Dans cet Irak, vous avez 63 organisations miliciennes lourdement armées qui disposent des hélicoptères, des chars, des drones, des roquettes, avec au moins 175 000 combattants. Et donc, dans cette milicisation de la société et de l'État irakien, bien évidemment, le risque de l'insécurité est très, très, très haut.
Et face à cela, un Bagdad, un pouvoir central affaibli.
Vous avez un Premier ministre à la tête du gouvernement qui n'a aucun député au sein de l'Assemblée nationale, qui n'a pas la légitimité démocratique, un Premier ministre qui n'a pas un parti politique, qui n'a pas une base sociale derrière lui, et donc un Premier ministre pris en otage par les milices et par les élites. Elle-même dispose de tous les capitaux, le capital militaire, le capital sécuritaire, le capital financier, et donc oui, vous avez un gouvernement totalement désarmé face à toutes ces crises. Mustafa Kazemi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec une certaine légitimité de ce mouvement de contestation, il a fait 22 promesses. À ce jour-là, aucune promesse n'est tenue. Et de ce fait, la seule légitimité qu'il avait, il l'a perdue.
Quant au groupe État islamique, quelles sont les séquelles encore qui subsistent de son occupation ? Quelles menaces de sa part se profilent ?
L'organisation d'État islamique n'est pas coupée d'une base sociale. Au contraire, à certains niveaux, reflète le désespoir de la communauté sunnite qui dirigeait l'État de 1921 à 2003, ont été marginalisés de 2003 à 2005. C'est pourquoi ils sont entrés dans une résistance contre l'occupation américaine. Pendant cette période-là, l'État irakien a mis en place la désunification. C'est pourquoi en 2014, les sunnites, trahis par la communauté internationale, s'engagent massivement dans le mouvement l'Organisation d'État islamique. Mais en 2017, encore une fois, les États-Unis d'Amérique, la coalition internationale, font avec l'État irakien la grande promesse à cette communauté. Si les sunnites s'engagent dans la guerre contre l'Organisation d'État islamique, cette fois, c'est sûr, ils seront intégrés, réintégrés dans l'État irakien. Mais de 2017 à ce jour-là, 2021, non seulement leur réinsertion au sein de l'État irakien n'est pas réalisée, même le mouvement de la reconstruction de leur pays, c'est-à-dire reconstruire des maisons, des routes, des infrastructures. Autrement dit, vous êtes à Mossoul, vous avez encore l'odeur des cadavres dans les rues. Rarement vous trouvez un quartier mixte entre les chiites et les sunnites. Ce retour en force de Daesh représente en quelque sorte le désespoir de cette communauté sunnite qui ne dispose aucune perspective d'avenir, aucun projet.
Voilà, chers amis auditeurs, pour ce tableau certes assez sombre, mais pour rappeler tout l'enjeu et toute l'importance de ce voyage du Saint-Père en Irak pour la paix dans ce pays, une vraie paix. Voilà, donc cette actualité du pape François se termine. Je vous retrouve bien sûr jeudi prochain. Même heure, 14h. Au revoir à tous.